France Culture.
France Culture, la fabrique de l'information, François Saltienne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Cela fera bientôt 4 ans que l'invasion de l'Ukraine par la Russie occupe nos espaces médiatiques, une guerre annoncée comme éclair par l'envahisseur mais qui dure depuis février 2022. De la stupeur à la mobilisation en passant par la routine, comment les médias traitent-ils du conflit? Quelle a été l'évolution de l'approche et comment se renouveler sans tomber dans l'anecdotique? Comment raconter une situation au-delà des bombes et de la ligne de front? Parler de ceux ou celles qui restent et subissent souvent la guerre dans l'ombre. Quel est le quotidien d'une correspondante en Ukraine qui vit sur place au diapason d'une population qui ne se sent pas toujours bien représentée par la presse internationale? Comment maintenir une audience et un intérêt lorsque le public est confronté à une surcharge informationnelle et à une actualité qui ne s'arrête jamais, de Gaza à Donald Trump, en passant par notre instabilité politique? À quelques jours de l'ouverture du prix de Bayeux qui récompense le talent et le courage des correspondants, on s'interroge dans la fabrique sur la manière de raconter une guerre qui dure. Quatre invités pour répondre à toutes ces questions. D'abord à distance, depuis l'Ukraine, où vous suivez la situation depuis plusieurs années. Clara Marchaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondante à Kiev pour Le Figaro, L'Express ou encore Mediapart. Vous êtes également l'autrice du livre « Un si long mois de février, histoire intime de la guerre en Ukraine » paru l'an dernier aux éditions Plein Jour. En studio depuis Paris, Grégory Philips, bonjour.
Bonjour François.
Vous êtes actuellement le rédacteur en chef international à LCI, la chaîne d'information continue qui a le plus couvert le conflit. Et précédemment, vous avez été pour Radio France correspondant à Jérusalem ou encore à Washington. À vos côtés, Anne Poiret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, réalisatrice et fondatrice de la structure de production After War. Votre dernier film, Les fantômes de l'Ukraine, sera projeté en avant-première dans quelques jours à Bayeux et bientôt sur France Télévisions. Il met en lumière des femmes à la recherche de leurs proches disparus. Anna Colin-Lebedev est également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des conflits armés et de l'action protestataire en Ukraine et Russie. Et vous avez été très sollicité au début de la guerre. Vous venez de signer pour la revue Sociologie Pratique sur le devant de la scène médiatique dans cet article. Vous revenez sur la médiatisation des chercheurs et chercheuses. Enfin, comme chaque semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un journaliste de la rédaction de Courrier International, notre partenaire qui veille, sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère. Je l'ai bien fait ça, Julien ?
Parfait, nickel.
Alors, vous êtes en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Quel sera le sujet de votre chronique ?
On va parler des tests de virginité en Iran.
Voilà, vous avez le programme complet de cet épisode 5 de la Fabrique de l'Information. Pensez à vous abonner au podcast sur l'application Radio France ou à nous suivre en direct et en images sur la chaîne YouTube de France Culture ou son compte TikTok. Nous accueillons avec Joséphine Reinhardt à la préparation de cette émission toutes vos questions.
Les sirènes d'alerte, elles retentissent depuis la nuit dernière à Kiev. Ce journal de 13h sera bien sûr très largement consacré à la guerre en Ukraine, guerre qui a commencé juste avant 4h du matin la nuit dernière.
Alors, à cause du couvre-feu, il m'était interdit de sortir du périmètre de l'hôtel hier, sous peine d'être considéré comme un ennemi. Et j'ai donc dû interroger les Ukrainiens juste à côté de moi.
On va découvrir juste l'image de l'explosion qui a eu lieu donc à Kramatorsk tout à l'heure, juste à côté de notre équipe, donc ce qu'a vécu Paul. Donc j'avais pas vu l'image. Paul, est-ce que tu sais s'il y a des victimes ? Réponds-moi.
On rappellera juste un chiffre. La moyenne d'âge du côté de l'armée ukrainienne, c'est 43 ans aujourd'hui. Vous entendez le tir qui vient d'être mené.
Comment faire son travail de journaliste sous les bombes ? Comment continuer d'informer quand sa propre ville est une cible ? Comment devient-on reporter de guerre du jour au lendemain ?
Voilà, grande question pour parler justement aujourd'hui dans la fabrique de l'information de ce conflit qui dure et de son traitement médiatique. On va d'ailleurs revenir au début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022 pour analyser la manière dont les médias en ont parlé. Le maître mot à l'époque, c'était une guerre aux portes de l'Europe. On sent que c'était le récit. C'est cette proximité qui explique, selon vous, Grégory Philips, en premier lieu, la couverture importante du sujet, notamment sur LCI, qui est la chaîne que vous représentez aujourd'hui, même si je sais que vous l'avez rejoint après le déclenchement de la guerre.
Oui, il y a eu un choix fait par cette chaîne il y a 4 ans de considérer que c'était un conflit majeur, comme vous l'avez dit, aux portes de l'Europe, et que c'était pas juste un conflit régional qui aurait sans doute des répercussions pour nous, Européens, et 4 ans après, on le voit bien ces derniers jours avec la menace russe, qu'effectivement on est directement concerné. Ça fait 4 ans qu'on couvre cette guerre avec une large part de l'antenne qui est consacrée, avec des équipes qui y sont quasiment en permanence depuis le début de la guerre. Il y a vraiment des rotations qui se sont inscrites. Nos reporters partent une 20aine de jours, puis reviennent. Il y a très peu de trous, d'ailleurs, en 4 ans. Il y a eu quelques semaines où on n'avait pas d'envoyés spéciaux, mais là, on fait appel, évidemment, à des pigistes sur place. Donc, c'est un gros effort, pardonnez-moi d'être un peu trivial, mais financier, éditorial, d'avoir des équipes en permanence dans ce pays. Et puis, il y a un deuxième effort, c'est comment raconter cette guerre. Parce qu'effectivement, il faut ne pas provoquer de lassitude, continuer à intéresser, continuer à expliquer surtout les enjeux, continuer à raconter des histoires, continuer à raconter le quotidien des habitants, tout en se renouvelant, tout en imaginant de nouvelles formes de récits.
Et puis sans en faire trop non plus, parce que par définition, c'est un feuilleton qui ne veut pas non plus surjouer peut-être parfois des retournements, des ruptures.
Et puis parce que vous avez aussi d'autres dossiers internationaux qui quand même nous occupent, de Gaza à Donald Trump à la Maison Blanche, la politique française. Enfin, évidemment, il faut doser ça un peu savamment, mais c'est vrai que sur cette chaîne, en tout cas LCI, qui consacre beaucoup de son antenne à l'international, l'Ukraine a une place importante.
Oui, un chiffre peut-être justement pour incarner tout cela, c'est un chiffre qui vient de la Revue des médias, qui nous dit qu'entre 2022 et 2023, LCI représente 52% des mentions du conflit, toute chaîne d'information continue confondue. Donc c'est effectivement assez important. Clara Marchaud, vous étiez déjà sur place avant février 2022. Quelle est la particularité du terrain ukrainien en tant que journaliste ?
Alors c'est difficile pour moi de parler de particularités, par exemple, par rapport à d'autres conflits, parce que je fais un peu partie de... Enfin, comme les journalistes ukrainiens, le 24 février 2022, je me suis retrouvée journaliste, enfin reporter de guerre malgré moi, même si bien sûr on couvrait le Donbass avant. Mais la particularité, je dirais que je le vois par rapport à mes collègues qui travaillent sur d'autres conflits, c'est qu'on a quand même beaucoup d'accès. On a quand même beaucoup d'accès à la ligne de front. On a beaucoup, le terrain ukrainien est quand même, on le voit aussi, et je pense que ça explique le fait qu'il y ait autant de journalistes qui se soient rendus en Ukraine et qui travaillent en Ukraine. C'est que on a une population qui est assez proche en fait en termes de mode de vie des populations, des autres populations européennes, qui acceptent beaucoup les journalistes, qui justement veulent parler. On n'a pas du tout de difficulté à trouver des témoignages. Et puis aussi, c'est une société qui est très organisée, avec une société civile qui est très organisée, avec des institutions qui continuent de fonctionner malgré tout. Et donc, nous, en tant que journalistes, c'est vrai que c'est plutôt... malgré en fait les risques sécuritaires, les bombardements, etc., c'est quand même plutôt aisé de travailler en Ukraine, de récupérer des informations, de couvrir ce conflit. Et je pense notamment par rapport à l'autre côté de la ligne de front, où pour le coup on a beaucoup moins d'informations, ou même sur les territoires occupés, où on ne peut pas se rendre.
On y reviendra justement sur cette manière de dépasser aussi la ligne de front en termes d'attention médiatique. Donc on l'a compris, un terrain particulièrement accessible par rapport à d'autres et à d'autres terrains de conflit armé. Juste, vous l'avez perçu comment, vous, cet emballement médiatique, puisque je le rappelle, vous étiez déjà présente en Ukraine?
Oui, alors en fait, c'est un peu... Là, vous parlez justement d'analyser la couverture en février 2022. Moi, c'est vrai que je le vivais de l'autre côté. Donc, et donc, avec, bien sûr, tout d'un coup, vivre sous les bombardements, devoir se protéger. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de voir du côté des auditeurs, des lecteurs, des téléspectateurs. Mais c'est vrai que, pour moi, par exemple, en tant que correspondante, on était 4 correspondants français à être en permanence en Ukraine avant le 24 février 2022. Et donc, juste avant, en fait, il y avait énormément de journalistes, mais de partout dans le monde qui venaient. Donc, sur la place Maïdan, c'était assez impressionnant, et c'est toujours encore un petit peu le cas, d'avoir constamment au moins une ou deux chaînes de télé qui font des directs. À l'époque, c'était une dizaine de chaînes de télé que vous voyez sur la place Maïdan qui faisaient des directs pour, et même des Chinois, des Japonais, des Sud-Américains. Enfin, c'était vraiment...
C'était un studio géant, voilà, monde de vision.
C'est ça. Et moi, en tant que journaliste, en fait, mon téléphone sonnait tous les jours, constamment, dès que avant l'invasion à grande échelle, hein, mais même après, c'est-à-dire que il y avait tellement de besoins d'expertise, de comprendre ce qui est en train de se passer, que tout d'un coup, on s'est retrouvé un peu débordé à essayer de couvrir tant bien que mal avec les problèmes aussi sur place, quoi.
Alors, on verra justement tout à l'heure si votre téléphone sonne toujours autant pour couvrir le conflit ukrainien. Le téléphone d'Anna Colin-Lebedev, il a aussi beaucoup sonné au début, puisqu'on avait besoin de chercheurs et de chercheuses. Vous en avez fait un article. Comment vous l'expliquez-vous, ce fort intérêt, au départ en tout cas, des médias français, et puis aussi votre rôle en tant que chercheuse ?
Alors, je pense que du côté des chercheurs, l'intérêt s'explique par le manque de connaissances qu'il pouvait y avoir initialement sur l'Ukraine, autant sur la Russie. Il y avait des spécialistes, y compris dans les médias, des gens qui avaient été correspondants sur place. L'Ukraine était un sujet dire de niche, c'est ne rien dire, en fait, de toute petite niche, et qui tout d'un coup, vu l'intensité du conflit et l'intensité de la couverture, concernait un grand nombre de journalistes. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des sollicitations autant de différents médias généralistes que de médias beaucoup plus spécialisés, en fait, dans le temps qui ont suivi, puis des médias pour enfants, enfin voilà, j'avais l'impression que tout le spectre professionnel des journalistes avait besoin de... déjà pour eux-mêmes, de se former à l'Ukraine, d'avoir des éléments d'explication et des éléments de mise en contexte pour pouvoir mieux couvrir, en fait, ce qui se passait. Et puis, l'Ukraine était présente à peu près à la une de tous les médias, même si, bien évidemment, voilà, certains médias en parlaient plus que d'autres. Et je dirais qu'à ce moment-là, surtout, on avait beaucoup besoin d'une... l'explication un peu basique, de comprendre ce qu'était ce pays, quelle était sa relation à la Russie, ce qui s'était passé dans les années précédentes, la guerre dans le Donbass qu'évoquait Clara Marchaud.
Faire œuvre de vulgarisation, hein, de pouvoir poser les bases.
De vulgarisation et faire un point d'étape à ce moment-là, et c'est vrai que ça expliquait. Et par ailleurs, eh bien, nous étions relativement peu nombreux, en fait, à répondre à ces questions, parce que sujet de niche également dans le milieu académique français. Et donc, voilà, la très grande demande et la rareté de l'offre explique que ça s'est concentré sur quelques téléphones qui ont reçu des SMS à répétition.
Et la qualité de vos analyses, évidemment, mais ça, votre humilité vous empêche de le dire. Oui, Grégory.
Si je peux en profiter pour vous remercier, parce que moi, il se trouve que j'étais à France Culture à ce moment-là, directeur adjoint de la rédaction, et enfin, j'imagine que vous le savez, mais c'était extrêmement précieux, effectivement, pour nous, de vous avoir, d'avoir vos explications, pour comprendre le pays, puis on relayait ça à nos équipes sur le terrain, etc. Enfin, je sais que vous avez été beaucoup sollicité, mais vraiment, merci.
Merci beaucoup, mais on partageait aussi un savoir collectif. Et je pense que l'un de mes rôles, ça a été d'identifier aussi des personnes qui pouvaient, dans les collègues, qui pouvaient répondre sur différents sujets. Alors depuis, bien évidemment, on est beaucoup plus nombreux. Tant mieux pour la recherche et tant mieux pour les médias.
En tout cas, de cette surexposition, enfin exposition, peut-être surexposition médiatique, vous en gardez un bon souvenir. Vous n'y avez pas vu aussi les petites failles ou critiques que l'on peut aussi parfois entendre du côté de l'espace médiatique, d'être un peu parfois utilisé au dernier moment, vous demander de réagir sur des questions que vous ne maîtrisez pas forcément.
Alors ça, c'est arrivé plutôt plus tard, je dirais, avec la réutilisation de la couverture. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais je pense que là, on était dans une démarche extrêmement salutaire de besoin de connaissances, et si faille y avait, comment pouvait-il en être autrement avec ce choc qui a amené à bousculer les antennes, bousculer les émissions, faire beaucoup d'émissions thématiques.
Alors justement, ces émissions thématiques et l'attention va très vite se focaliser sur la ligne de front encore aujourd'hui. Anne Poiret, vous êtes journaliste, réalisatrice, productrice. Comment justement on essaye de s'en affranchir de cette ligne de front pour peut-être trouver d'autres chemins de traverse pour raconter cette situation ?
Alors moi j'ai un parcours un peu particulier parce que je m'intéresse pas au front, moi je m'intéresse normalement à ce qui se passe après les conflits. Il se trouve qu'en Ukraine ils ont quelque chose de très particulier, c'est qu'ils font la guerre et ils s'occupent déjà de l'après. Ils s'occupent de l'après, ils ont une double approche qui est très rare, et notamment sur les questions de justice et sur les questions des disparus. Moi, je m'intéresse beaucoup aux disparus de guerre, parce que c'est vraiment c'est les fantômes des guerres. En fait, c'est des gens qui sont ni vivants ni morts, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ça hante tous les terrains d'après-guerre, de la Colombie à l'Irak. Et en Ukraine, il se trouve qu'ils les cherchent pendant que le conflit se déroule. C'est un des endroits où il y a le plus de disparus, parce que bien sûr, dans la ligne de front et dans les territoires occupés, il y a des disparitions forcées et les disparus de guerre. Mais l'Ukraine, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire entre 2014 et 2022, vraiment, les familles étaient plutôt laissées livrées à elles-mêmes. À partir de 2022, il y a eu une prise de conscience très importante. Il y a eu un mouvement des femmes aussi, des familles qui ont vraiment poussé l'État à s'organiser, à mieux s'organiser et à mieux s'occuper de ces disparus. Donc moi, je me suis engagée dans ce documentaire il y a 2 ans. Maintenant, j'ai commencé à suivre des femmes il y a 2 ans pour voir, parce que la particularité des disparus, c'est que c'est très long et qu'il se passe peu de choses. Et donc, pour pouvoir quand même faire un film et qu'il se passe des choses dans le film, il faut que le temps passe. Et donc, on a tourné pendant 2 ans.
Ça, c'est intéressant, parce que vous faites face à Grégory Philips, qui, lui, dans l'information continue. Donc, c'est quasiment la démarche inverse, même si je ne dis pas que dans l'approche d'LCI, il n'y a pas de profondeur. Vous parliez justement de ces femmes qui sont en recherche des hommes qui ne sont pas forcément que leur mari, ça peut être leur cousin, ça peut être leur frère. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de votre documentaire « Les fantômes de l'Ukraine ».
Je m'appelle Marina. Ce groupe a commencé avec moi. Je connais l'histoire de toutes ces femmes. Je les connais depuis longtemps. Nous sommes très proches. Je suis moi-même à la recherche du frère de mon mari. Il est comme mon propre frère.
Moi, je cherche mon mari. Il a disparu il y a 33 jours. J'espère tant qu'il a été capturé. J'élève nos 2 enfants. L'un a 6 ans, l'autre tout juste 1 an. Cette guerre a été difficile pour moi. J'ai vécu ma grossesse sans mon mari. Depuis le début, je suis seule avec eux. J'ai tellement peur de rester seule pour toujours.
Tu n'es plus seule.
Merci.
Les fantômes de l'Ukraine, donc c'est donc votre documentaire Anne Poiret, prochainement en diffusion en novembre sur France Télévisions, et que je recommande évidemment. Et si vous êtes à Bayeux la semaine prochaine, le festival organise une avant-première. Clara Marchaud, vous rejoignez vous aussi cette démarche d'Anne Poiret, alors pas dans les mêmes temporalités, mais vous aussi vous essayez de quitter la ligne de front, d'aller dans des territoires occupés, de chercher justement des sujets qui ont d'autres angles. Comment vous faites pour les trouver, et surtout est-ce qu'ils sont plus compliqués à vendre à vos différentes rédactions et employeurs, je l'ai dit, l'Express, Le Figaro ou encore Mediapart?
Alors moi, je ne peux pas me rendre dans les territoires occupés parce que les journalistes indépendants ne peuvent pas s'y rendre sauf en étant dans un press tour accompagné de l'armée russe. Donc justement, c'est ça, c'est ce... Comment en fait continuer à couvrir, ce trou noir de l'information, ce territoire en fait qui est inaccessible, c'est ça. Disons qu'à partir de 2022, j'ai déjà couvert l'après et tout allait très vite. Il fallait couvrir les news, il fallait couvrir la libération de Boutcha, de Kharkiv, de Kherson, et en fait comprendre l'après. Et disons que jusqu'en 2023, il y avait quand même cet espoir d'une contre-offensive, d'une libération de ces territoires. Et nous, en tant que journalistes sur place, on pensait pouvoir se rendre dans ces territoires-là qui seraient libérés prochainement. Mais là, en fait, on voit qu'il y a quand même c'est intéressant parce que la ligne de front ne bouge plus, mais il y a quand même des évolutions. C'est juste qu'elles sont beaucoup plus lentes qu'en 2022 ou en 2023. On le voit, les évolutions sur la ligne de front. Donc c'est aussi raconté, par exemple... C'est pas seulement la ligne de front, mais raconter comment l'armée se structure, comment l'armée se réforme, comment la mobilisation se passe, des sujets qui sont un peu plus de fond, un peu plus structurels. Et puis aussi, je trouve ce qui est vraiment important pour travailler, surtout sur je me spécialise sur les crimes de guerre, c'est de continuer à couvrir l'occupation. Et pour continuer à avoir ces informations, il faut vraiment chercher. C'est beaucoup plus complexe. Et depuis 2 ans, enfin, c'est vraiment, je me suis un peu donné pour mission d'essayer de couvrir cette terrain-là parce qu'il n'est pas accessible. Mmh. Et parce qu'en venant une fois, c'est très compliqué. C'est un travail de source qui est très long. C'est attendre que des gens sortent. C'est aller à la frontière pour essayer de récupérer des témoignages de gens qui viennent de sortir de l'occupation parce que tous les réseaux sociaux sont, et les moyens de communication sont surveillés. C'est vraiment du travail de fourmi, quoi, en fait, qui aujourd'hui, je pense, est assez crucial et que nous, on doit faire sur place en ayant ce temps long.
Oui, et que vous pouvez faire à l'inverse, effectivement, de journalistes qui sont dépêchés et qui font des allers-retours, même s'ils y restent parfois plusieurs jours, semaines. Vous, vous vivez sur place, vous faites partie totalement de cette population ukrainienne, donc vous, vous pouvez raconter justement la guerre autrement, et puis parfois justement dans son côté un peu ordinaire, banal, avec des sujets, des reportages qui montrent que malgré la guerre, la vie continue, Clara Marchaud.
Oui, et justement, c'est pour ça que je pense qu'à partir de 2023, j'avais l'impression que les articles suffisaient plus à raconter le quotidien. En revenant en France, j'avais l'impression même mes proches, en fait, comprenaient pas ce qu'on vivait, comment on vit un bombardement, qu'est-ce que c'est de vivre dans une ville qui est bombardée, qu'est-ce que c'est de vivre sans électricité, par exemple. Et c'est des choses bêtes qu'on n'avait pas, en fait, que je n'étais pas vraiment les articles, mais moi, pour vivre sur place, en plus, je parle la langue, enfin, c'est juste le fait que toute votre vie, par exemple, quand il n'y a pas d'électricité, racontez que toute votre vie tourne autour de quand est-ce qu'il y aura d'électricité pour pouvoir faire une machine ou se sécher les cheveux, quoi. Enfin, c'est bien aussi bête que ça. Ou bien je me rends compte que parfois, il y a des choses un peu... du niveau, en fait, j'essaie de faire un pont entre l'audience en France et les Ukrainiens et justement de passer par ces histoires quotidiennes, en fait. Et ce que j'ai fait dans mon livre Un si long mois de février, ce que je voulais raconter, c'était vraiment ce quotidien-là, en fait. Comment le quotidien change du jour au lendemain et comment on s'adapte aussi à la guerre.
Grégory Philips, quand on regarde LCI, on vivait la guerre et on la vit toujours au quotidien, un peu moins maintenant, vous en parlerez. Mais on avait l'impression vraiment de la vivre en tant que stratège militaire. Moi, quand je regardais LCI, j'ai l'impression d'être un apprenti stratège. On était sur les questions de position. Mm-hmm. Vous aviez recours d'ailleurs à beaucoup de colonels, de généraux,
de consultants.
Ouais. D'ailleurs, comment on les trouve, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont rémunérés, par exemple, pour venir plusieurs heures sur votre plateau?
Les meilleurs, oui. Enfin, ceux qu'on fait venir 5 jours par semaine, oui, ils sont rémunérés et on les a on a un peu inventé ça au début de la guerre, c'est-à-dire qu'il fallait trouver des experts, des analystes, parce qu'il y avait effectivement la couverture du front et des bombardements qui étaient faites par nos équipes, et puis il y a une volonté, en tout cas sur LCI, d'analyse et d'expertise, et en fait dans ce cas-là il faut pas se tromper de client, entre guillemets. C'est pour ça qu'on avait appelé Anna beaucoup au début de ce conflit, mais après sur les choses militaires vous allez pas faire venir n'importe qui pour vous expliquer effectivement comment le front évolue, les armements, c'est très technique, très pointu. J'avoue que même moi-même, parfois, sur les plateaux, je suis un peu perdu et je me retourne vers Michel Goya pour essayer de comprendre en quoi la livraison de missiles Atacms ou de missiles Tomahawk peut changer le visage de la guerre.
Donc Michel Goya, il change de métier à ce moment-là, il devient vraiment expert.
C'est un militaire qui a fait toute sa carrière dans l'armée, qui est colonel et qui, aujourd'hui en tout cas, travaille avec nous pour essayer de nous donner des clés de compréhension.
En exclusivité, ça veut dire ?
En exclusivité. Ils sont quelques-uns comme ça, qu'on a intégrés dans nos équipes et qui viennent que sur les plateaux de...
C'est donc une prise de guerre médiatique.
Non, mais c'est important d'essayer de proposer aux téléspectateurs la meilleure analyse. Donc forcément, vous avez envie d'avoir les meilleurs spécialistes pour comprendre. Et encore aujourd'hui, on voit... et c'est pareil pour la géopolitique. En fait, quand on voit les répercussions que ça a entre Washington et Moscou, la menace qui pèse sur l'Europe, toutes ces affaires de drones dont on parle depuis quelques jours, vous avez aussi besoin d'experts, de diplomates ou d'anciens diplomates qui sont capables d'analyser, par exemple, les mouvements de Donald Trump, les revirements successifs. Donc, il y a le terrain qui reste très important pour nous, et c'est pour ça que je vois bien que vous essayez de m'opposer à Anne Poiret.
Non, c'est deux logiques différentes.
Mais je pense qu'on est complémentaires. Nous, on est sur le hard news, pardonnez-moi pour cet anglicisme, mais où tous les jours, on essaie de faire remonter l'info. Et par exemple, sur les bombardements à Kiev, l'autre jour, la mort de cette petite fille de 12 ans, on a fait plusieurs duplex pour raconter l'immeuble résidentiel, les dégâts, les familles, la famille endeuillée, etc. Donc ça, c'est le hard news. La deuxième partie, c'est l'analyse, l'expertise avec le colonel Michel Goya, que vous adorez. Et puis on est complémentaires, parce que les documentaristes travaillent sur un temps beaucoup plus long. Nous, on a moins le temps de faire ça, même si on essaie de proposer des reportages un peu longs. Mais c'est pas avec la même ambition, évidemment, que ce que vous faites. Et puis, on est complémentaires avec les chercheurs, qui, là, sont sur un degré d'analyse encore un peu plus élevé.
Justement, les chercheurs, la chercheuse Anna Collin-Lebedev, comment vous le voyez-vous aujourd'hui, le traitement du conflit là en 2025, dans la manière dont il a pu évoluer?
Alors, je pense que parmi les choses que je noterais, d'une part, c'est effectivement la domination de l'analyse militaire et géopolitique sur les autres types de couverture, dans la mesure où, précisément, sur le front, les évolutions sont là, mais les évolutions sont beaucoup moins frappantes qu'au début de la guerre, et que sur les questions civiles, je pense qu'il y a une difficulté assez grande, en réalité, pour trouver des sujets au-delà de la question des victimes. Effectivement, le sujet des victimes civiles est là, il est récurrent, mais je dirais que, par exemple, pour un chercheur, moi qui ne suis pas spécialiste des questions militaires, même si je me suis beaucoup formée quand même, et j'avoue que dans les missiles, je suis nettement plus compétente quatre ans après le début de la guerre, n'étant pas spécialiste des questions militaires, n'étant pas spécialiste des questions géopolitiques, je dirais que mon champ de compétences se réduit considérablement aujourd'hui, hein, dans la mesure où c'est ça qui va être essentiellement demandé par les, notamment sur les plateaux. Alors ça dépend beaucoup des médias. Effectivement, sur une chaîne d'information en continu, dans la mesure où on est quand même dans une logique de commentaire, on va être amené à commenter ce qui est présenté à l'antenne, et si ce qui est présenté à l'antenne, c'est du hard news, on doit commenter du hard news. Or, en fait, c'est vraiment pas comme ça que nous, on collecte de l'information.
Oui, il y a parfois une injonction aux commentaires, c'est-à-dire qu'on se doit de commenter.
On ne peut pas répondre à une question, même si moi, j'avoue que je prends la liberté parfois de dire, mais moi, là-dessus, vraiment, vraiment, vraiment pas.
Ce que les journalistes adorent, d'ailleurs, quand on pose une question et que l'intervenant dit, alors là, j'y connais rien du tout.
Oui, c'est vrai. Ça crée un petit malaise. Mais c'est vrai que nous, par exemple, on a été formés à prendre de la distance. Toujours prendre du recul, de la distance par rapport à l'événement, de le replacer dans un contexte plus large et, quelque part, de se refuser à l'analyser dans l'immédiateté. Donc, c'est un petit peu compliqué pour nous, cette logique de commentaire. Donc, souvent, on a cette manière de faire qui est de ne pas répondre à la question. C'est-à-dire, on nous pose une question en demandant un commentaire sur un fait d'actualité qui vient d'arriver. Mais comme nous, on n'a pas eu la possibilité de le travailler, de prendre du recul, eh bien, on va détourner pour dire, en fait, je ne vais pas vous répondre directement, mais je vais vous répondre un truc qui a un lien, et après vous ferez votre propre réponse à la question.
Généralement, le personnel politique est maître en la matière de non pas donner force
pas
de répondre à la
plus.
Question.
Et vous êtes pas mal non plus.
Anne Poiret, vous disiez quelque chose d'intéressant tout à l'heure sur l'Ukraine en disant que le pays est à la fois en guerre et prépare l'après-guerre. La structure de votre production, votre maison de production s'appelle After War, donc on est vraiment totalement dans cette logique-là. Comment on fait justement, comment font-ils pour préparer l'après-guerre tout en étant en guerre?
Il cherche, c'est ce qui est très particulier dans ce conflit, ce qui n'existe pas normalement dans un conflit aussi brutal et long que celui-là, c'est l'échange des prisonniers. Par exemple, les Russes et les Ukrainiens s'échangent des prisonniers depuis 2022. Très peu entre 2014 et 2022, mais vraiment depuis 2022, il y a énormément d'hommes qui sont échangés pour un conflit en cours. C'est tout à fait inédit. Et ils s'échangent également énormément de corps. Au printemps, quand dernier tournage, c'était deux fois par mois. Il y avait vraiment vraiment de très nombreux corps qui étaient échangés. Et ça permet d'espérer d'abord que des gens rentrent, de localiser des gens dans les prisons, et après de les faire revenir et d'avoir des corps à analyser, puisque c'est ça le drame des disparus pendant les conflits, c'est qu'il y a des gens qui cherchent et puis il y a des corps qui sont pas identifiés et auxquels ils font mettre un nom. Et tout ça, ils se sont vraiment depuis 2022 sur la pression des familles d'un intérêt politique bien compris, parce que c'est énormément de gens, énormément de femmes qui sont à l'arrière du front et qui demandent des explications et qui demandent de façon de plus en plus organisée des comptes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très particulier, parce que ça permet, ça donne un espoir à toutes ces femmes qui espèrent, qui traquent tous ces hommes. Ça aussi, c'est très particulier à ce conflit, c'est que la guerre, on a l'impression qu'elle se déroule en direct, on a l'impression qu'il y a énormément d'images, et tout d'un coup, quand il y a un disparu, comment est-ce possible? On a l'impression qu'on sait tout, que tout est diffusé, et tout d'un coup, c'est l'absence d'information. Et il y a énormément d'images de propagande, et donc beaucoup de ces hommes peuvent être et sont localisés par ces femmes à travers des images de propagande qui sont faites sur le front et qui sont faites dans les prisons.
Alors justement, cette recherche, vous parlez de ce flux d'images à travers les réseaux sociaux, on pense évidemment à Telegram, qui a été fondé par Pavel Durov, donc un Russe en exil, qui est vraiment le réseau social de la guerre, que ce soit d'ailleurs pour la résistance ukrainienne ou pour l'armée russe, et donc aussi un objet d'analyse, un terrain d'analyse pour ces femmes que vous avez suivies. On les écoute tout de suite.
Pour trouver une trace de vie, l'espoir de toutes ces femmes réside dans les milliers de vidéos de propagande tournées sur le front et dans les prisons russes.
Regarde, ils cachent leur visage.
Oui, ils les floutent pour qu'on puisse pas les reconnaître. Et voilà, ils postent ça.
Et c'est sur Telegram ?
Oui. On les oblige à dire du mal de notre gouvernement. Ils nous ont dit de suivre nous-mêmes les chaînes russes. Et donc c'est moi qui fais la plupart des recherches. Alors je suis ces chaînes plusieurs fois par jour. Et j'essaie de l'identifier. Il n'y a pas d'autre façon.
France Culture, la fabrique de l'information, François Celtiel.
Clara Marchaud, depuis donc Kiev en Ukraine, j'ai le souvenir quand il y a eu le déclenchement de la guerre, on parlait de la première guerre TikTok aussi en 2022, puisque c'était le réseau social où on pouvait voir beaucoup d'images du conflit, on pouvait voir des militaires qui se filmaient, on pouvait voir des influenceurs, des influenceuses, un terrain de propagande qui est fort. Là, on parle de Telegram, c'est aussi une particularité peut-être de ces conflits aujourd'hui, c'est qu'ils sont complètement percutés par un flux d'images incessants qui viennent notamment des réseaux sociaux, qui en entremêlent à la fois information, source d'information, mais aussi désinformation. Comment vous le vivez, vous ? Comment vous arrivez à analyser ce flux permanent qui vient des réseaux sociaux ?
Pour nous, en fait, on ne peut pas vraiment, en étant sur place, suivre totalement les chaînes Telegram, hein, mais il y en a énormément. En travaillant, par exemple, sur l'occupation, ça, c'est pour nous, en fait, pour les journalistes qui travaillent sur le sujet, des sources assez importantes, parce que sans pouvoir se rendre sur le terrain, on peut retrouver, en fait, des ce que je trouve assez impressionnant, hein, mais moi ça m'est arrivé de tomber sur des Russes qui ou des soldats russes qui parlaient eux-mêmes de leurs crimes, par exemple, qui parlaient. J'avais fait un reportage sur une femme qui avait été expulsée des territoires occupés, puis ensuite mise aux travaux forcés. Elle était en captivité dans la région de Zaporijja, et en fait, avec des journalistes ukrainiens, certains journalistes ukrainiens en fait avaient retrouvé le compte Telegram de son bourreau, qui lui-même se filme. Mais et sur TikTok également, en train de trinquer avec ses amis aux expulsions qu'il faisait. Donc en fait, ça, je trouve ça assez impressionnant. En 2022, c'était beaucoup le cas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les Russes, notamment sous occupation, on le voit aussi dans la recherche des enfants, commencent à cacher leurs traces. C'est-à-dire que depuis un an, deux ans, on voit qu'ils ne sont plus aussi ouverts. Avant, ils publiaient eux-mêmes parfois des photos avec ces enfants qui kidnappaient aussi, pour justement pour leur propre propagande. Ils se montraient un peu d'une certaine façon. On avait l'impression qu'ils allaient gagner, qu'ils allaient prendre toute l'Ukraine, et du coup il y avait vraiment cette culture de l'impunité. Et aujourd'hui, ces gens là qui sont parfois un peu plus bas dans l'échelle, hein, c'est pas Vladimir Poutine, mais ces gens qui sont beaucoup plus bas que lui, mais c'est tout un appareil en fait répressif et criminel. Et donc aujourd'hui, ces gens là sont sous sanction, font beaucoup plus attention, donc c'est beaucoup plus difficile pour nous de retrouver par exemple les enfants qui ont été kidnappés. Mais c'est quelque chose qu'on peut encore faire, mais qui demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Et dans ça, en fait, on travaille beaucoup, nous, les journalistes, notamment étrangers, hein, mais et les journalistes ukrainiens, avec des ONG qui documentent, avec la justice aussi, enfin toutes ces ONG, toute cette coalition, disons, de gens qui travaillent à identifier les criminels de guerre, à travailler justement sur ces crimes à distance, faute de pouvoir se rendre sur place et en témoigner, quoi.
Grégory Philippe, justement, par rapport au flux des réseaux sociaux, j'imagine que vous le regardez, c'est une source, une des premières sources, sans doute, hein. Évidemment, c'est très loin d'être la seule, qu'il faut la prendre avec une certaine précaution. Quel est votre rapport, vous, par rapport à ce flux-là ?
Oui, quand je suis arrivé à LCI, j'ai été estomaquée par le fait que tous les rédacteurs en chef, les assistants, tout le monde était sur des boucles Telegram et arrivait à les lire. Enfin, il y a un nombre de boucles très important. Et je me suis dit, oh là là, mais ouais, j'arriverai jamais à assimiler toutes ces infos, comment on fait, etc. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de veille, parce que ça peut nous alerter sur un sujet important, sur une déclaration, etc. Et il y a surtout, mais ça comme dans toutes les rédactions, depuis pas mal d'années maintenant, un travail de vérification. Mmh. C'est-à-dire qu'on a une cellule qui est spécialisée là-dedans. On va voir une vidéo, je sais pas, d'un bombardement par exemple. Immédiatement, on envoie cette vidéo à la cellule qui va essayer de trouver l'auteur de la vidéo, le lieu de la frappe, la date, l'authenticité de ce document. Et une fois que cette image a été tamponnée, elle est fiable, on peut la mettre à l'antenne. Mmh. Ce qui, alors parfois d'ailleurs, on prend du retard. Hein, ça, et dans le doute, on diffuse pas. Mais parfois, ça nous prend 2-3 heures pour être sûr que l'image est bonne et que c'est pas une image de propagande ou quelque chose qui date d'il y a 4 ans sur un autre conflit. Enfin, vous voyez, donc faut vraiment être très vigilant là-dessus, mais je pense que toutes les rédactions audiovisuelles le sont et ont appris à gérer ce flux d'images.
Notamment avec le travail en OSINT, hein, ce que vous expliquez, c'est-à-dire la recherche en source ouverte pour, depuis Paris, depuis son bureau, arriver à faire du croisement de données analytiques pour pouvoir certifier ou garantir la véracité d'une information. Anna-Colin-Lebedev, vous disiez aussi en pré-interview que le risque pour se renouveler, justement pour les rédactions, pour chercher des angles originaux, c'est parfois bien mettre à l'agenda des angles ou des récits qui sont ceux des belligérants.
Oui, effectivement, et on le voit très bien dans le cadre de cette guerre, la Russie va s'emparer d'un certain nombre de thématiques à partir souvent de faits anecdotiques mais totalement authentiques, et puis elle va les diffuser massivement sur les réseaux sociaux, parfois à travers des chaînes en fait qui sont présentées comme des chaînes ukrainiennes, qui sont en langue ukrainienne, et donc ça trompe un certain nombre de lecteurs, parfois par d'autres moyens. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de constater qu'un thème qui avait été véritablement gonflé comme ça quantitativement par les médias russes, était repris par les médias français et après, par une logique de reprise des sujets qui avaient été traités par d'autres, devenait tout d'un coup un sujet majeur. Je vais vous en donner deux, par exemple. C'est le sujet de la difficulté de l'armée ukrainienne à recruter et le sujet qui est lié des désertions dans l'armée ukrainienne. Sur l'année dernière, ces deux sujets, tout d'un coup, avaient fait l'objet d'un traitement qui, quantitativement, n'était pas justifiable. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas des sujets...
Deux secondes, vous avez raison, c'était vraiment quelque chose qu'on entendait d'un flash d'info à un autre.
Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le traiter, ce sujet-là. Mais je dirais, l'inflation nous montrait bien qu'une certaine opération russe, en fait, de montage en épingle d'un sujet qui a vocation aussi à démotiver les opinions européennes et de démotiver l'opinion ukrainienne, avait pas trop mal marché.
C'est ce qu'on appelle aussi l'astroturfing, hein, cette capacité sur les réseaux sociaux à amplifier justement une information en inondant finalement les différents réseaux sociaux pour lui donner ce côté justement indispensable, comme si c'était en train de se passer devant nous et qu'il fallait absolument le traiter. Clara Marchaud, vous souhaitiez réagir justement à ce point-là?
Oui, et puis je pense aussi, alors au-delà de la propagande russe ou du fait qu'on est influencé indirectement et sans le savoir par cette propagande-là, je pense qu'il y a aussi on a nos propres cadres de pensée pour analyser ce conflit. Et donc par exemple, je pensais à la mobilisation la mobilisation, la désertion, j'ai fait énormément de papiers là-dessus, voire notamment en 2023, 2024, j'ai dû en faire 5 ou 6. Quoi, en fait, alors que à un moment où c'était pas exactement le problème, enfin oui, bien sûr que c'était un problème, mais en fait, est-ce que ça méritait autant de couverture aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est vraiment un problème de société. À l'époque, quand en fait c'était vu comme quelque chose de nouveau, je pense, par les médias, notamment étrangers, et il y a un peu une course ici en Ukraine, on le voit avec les médias étrangers qui viennent à trouver quelque chose de nouveau, trouver un angle nouveau, quitte à parfois en fait gonfler un peu un angle qui est pas forcément le plus important. Je pense aussi du côté positif cette fois pour l'Ukraine, la résistance, notamment dans les territoires occupés. Il y a eu, et je trouve que quand on couvre justement l'occupation, il y a eu beaucoup de papiers sur de la résistance, notamment les activités partisanes, parce que c'est quelque chose aussi qu'on veut voir sur place, parce qu'on lit aussi, on voit ce conflit à travers le prisme de notre propre histoire, et on le voit par exemple, chaque pays, il voit quelque chose qui est plus important. Par exemple, les Britanniques, pour eux, ont le souvenir du Blitz, donc ces bombardements touchent plus. Et du coup, c'est vrai que, enfin, pour moi, en tant que journaliste sur place, j'essaye d'essayer de vraiment réfléchir à la couverture et de d'aller contre les justement contre ces cadres de pensée qui viennent de France, de notre histoire en fait.
De penser contre vous-même en fait, hein, en train de vous.
Voilà, c'est ça.
Exactement. Est-ce que je suis pas moi-même prisonnière de mon éthos ou de ma perception du conflit? Justement, on a une question de l'un de nos auditeurs, on pourrait même dire spectateur, puisque je vous le rappelle, cette émission La Fabrique de l'information est diffusée en direct et en images sur le compte YouTube de France Culture. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Cette question, elle vient de Anonymous qui nous demande comment couvrir cette guerre côté russe. Quelles sont les difficultés pour les journalistes? On peut peut-être continuer avec vous, Clara Marchaud, puisque vous êtes finalement la plus proche d'entre nous pour l'instant de la Russie.
Oui, alors je peux raconter aussi parce que je suis en contact avec mes collègues qui travaillent du côté russe, donc je peux aussi un peu parler pour eux, même si je ne suis pas dans leur à leur place. Mais c'est extrêmement compliqué, hein. Je pense et d'ailleurs je veux saluer leur travail parce que parfois c'est ce que je leur dis, c'est qu'on a l'impression que c'est plus compliqué pour eux de travailler un peu dans une société qui est schizophrène, vous voyez, c'est-à-dire essayer de faire des interviews avec des gens qui vous détestent. Disons qu'il y a c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès aux sources, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès aux sources officielles. Et en plus de ça, je pense que ce qui joue beaucoup dans la couverture, parce que pour le coup je lis énormément cette couverture-là, c'est que quand vous êtes correspondant à Moscou, vous avez toujours peur de perdre votre accès. Et donc il y a des sujets en fait qui peuvent pas vraiment être faits, notamment d'en parler avec certains confrères, hein, mais sur l'occupation. Moi je pense que les journalistes des rédactions françaises doivent aller dans les press tours russes, ce qui est assez controversé ici en Ukraine. Je pense que ça apporte quand même de l'information, mais effectivement on peut pas couvrir par exemple depuis Moscou du point de vue russe les territoires occupés. Et le fait de se rendre sur place ne suffit pas en fait, parce qu'il y a toute une partie de la société, une façon, enfin voilà, que vous pouvez pas voir quand vous venez, et surtout quand vous venez et que vous êtes constamment surveillé par les services secrets. Donc je pense que le côté russe est beaucoup plus complexe, et je pense que Anna Kolarybedev pourra aussi en dire plus, que il y a un peu un trou noir de l'information. On sait beaucoup ce qui se passe ici, on sait beaucoup moins ce qui se passe là-bas.
Voilà, on rappelle juste que les press tours sont des tours organisés par l'armée russe, donc par définition contrôlés. C'est une vraie question, hein, de savoir est-ce qu'il faut y aller, pas y aller. On va attendre justement Grégory Philippe sur cette question, puis après Anna Kolarybedev pourra donner son point de vue.
Non, il y a une première difficulté qui a été évoquée par Clara, c'est d'abord d'avoir un visa. Nous, au groupe TF1 LCI, on a la chance d'avoir Jérôme Garot, qui est notre correspondant en Russie, qui passe vraiment beaucoup de son temps et qui fait des allers-retours à chaque fois qu'il a un visa de 3 mois, et on sait que ce visa est fragile. Pas tant même sur ce que les Russes pensent du travail de notre correspondant que du contexte entre Paris et Moscou politique, et on sait que tout ça est extrêmement précaire, extrêmement fragile, et que les correspondants français peuvent être sous la menace d'une expulsion du jour au lendemain parce que les mots entre Poutine et Macron se sont durcis. Donc on sait que ça c'est très précaire. Après c'est très important pour nous d'être aussi côté russe pour relater les prises de position du Kremlin, pour essayer de prendre le pouls de la société russe, qui est quand même confrontée aussi à des difficultés économiques, avec je crois 700 000 soldats russes sur le front, donc ça a quand même des impacts importants. Et puis dans le cadre des opérations militaires, je me souviens que Jérôme, par exemple, vous vous souvenez de l'offensive dans la région de Koursk que les Ukrainiens avaient menée à l'été dernier. Jérôme était allé accompagné évidemment de l'armée russe dans cette oblast de Koursk, donc en territoire russe, pour voir de ce côté-là comment se déroulaient les combats. C'est très important pour nous, mais c'est difficile, et effectivement c'est assez précaire, notamment sur la question des visas.
Nicolas Lebedev.
On a un vrai problème de production de connaissances sur la Russie aujourd'hui, dans différents endroits où cette connaissance qui est produite, y compris les médias, ce qui amène effectivement à favoriser une couverture à distance. Et c'est vrai que la kremlinologie, qui a eu ses beaux jours pendant la guerre froide, est désormais de retour et florissante. C'est-à-dire la question « qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine ?» est une question récurrente, et quelque part, parfois, met vraiment laisse de côté des dynamiques extrêmement importante. Alors, du côté positif, on peut se dire que le type d'informations que l'on peut obtenir sur la Russie à distance continue à être intéressante, nombreuse, etc. La Russie n'est pas une boîte noire, ou alors si c'est une boîte noire, elle est pleine de trous dans tous les sens, d'où tout s'écoule. Mais effectivement, on est sur des faisceaux de bribes d'informations qu'il est très difficile de recouper, dont la représentativité n'est pas du tout évidente. Donc nous, on est confrontés véritablement au même problème. Mais je pense que voilà, la difficulté, et je dirais, est certes de comprendre ce qui se passe au sommet et de comprendre la décision politique, mais ça, cette question est posée de manière récurrente. Mais comprendre ce qui se passe dans le système russe, par exemple dans la gestion des forces armées, hein, dans la manière dont ça se passe concrètement sur le terrain. On le sait en Ukraine, parce que précisément, tout le monde parle, les problèmes de l'armée ukrainienne sont immédiatement rendus publics. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est facile pour la Russie de s'en saisir, parce que les Ukrainiens parlent eux-mêmes de ce qui ne va pas. Les Russes le font aussi, mais d'une manière plus pointilliste, sur les chaînes Telegram, ici et là. La manière dont le système fonctionne, la manière dont la loyauté fonctionne, dont tout ça tient, en fait, on a vraiment besoin de beaucoup, beaucoup d'éléments et beaucoup d'acteurs différents pour les produire. Des journalistes, des osinteurs, des chercheurs, des experts sur différents sujets. Et je pense que le risque que nous avons, en fait, sur la Russie, c'est juste de renoncer à comprendre. Et ça, je commence, moi, à le sentir, en fait, dans le discours médiatique, cette idée du grand méchant, qui est un espèce de bloc, et donc on ne cherche pas à décoder la logique et la dynamique interne.
Anne Poiret, je vous ai vu acquiescer sur le côté refuser de comprendre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a parlé ?
Non, mais c'est vrai quand on est indépendant comme je le suis, pour faire un documentaire sur 2 ans où on va suivre des femmes, où moi j'ai suivi un groupe de femmes liées à la défense territoriale pendant 2 ans, on a besoin d'une liberté totale. En fait, on peut pas se dire est-ce que j'aurai mon visa ? Est-ce que je vais mettre en danger ces femmes ? Est-ce qu'elles vont disparaître ? Est-ce que c'est pas possible, en fait ? Donc effectivement, il y a une forme de il faudrait faire le même film sur la Russie et sur les disparus, parce que bien sûr c'est un sujet majeur aussi là-bas, mais c'est vrai que c'est déjà très compliqué de travailler sur 2 ans, mais côté russe ce serait encore autre chose.
Un mot peut-être sur la presse justement russe. On se doute qu'il y a toute une presse qui est sous le joug de l'État, du Kremlin, mais est-ce qu'il existe une presse indépendante sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il existe des influenceurs ? Est-ce qu'il existe des blogueurs ? Comment justement on arrive à faire de cette presse peut-être des sources fiables, crédibles, au risque de leur vie, hein, j'imagine, pour certains journalistes.
Beaucoup de journalistes se sont réfugiés à l'étranger et continuent à travailler depuis l'étranger, en ayant d'ailleurs des relais et des collègues sur place qui font des enquêtes, qui font des entretiens, qui publient des articles, mais sous couvert d'anonymat, ce qui est tout à fait compréhensible pour des questions de sécurité. Et donc, nous avons très régulièrement des choses qui sortent, y compris, je dirais, un certain nombre d'informations essentielles ne peuvent être produites que par ces journalistes d'investigation aujourd'hui. Et je pense par exemple au chiffrage du nombre de morts et de blessés côté russe, qui est un projet où en fait les chiffres les plus fiables viennent d'un réseau de journalistes. Alors c'est vrai qu'on a là des sources précieuses. Le problème que nous avons, et c'est un problème de conditions de vie de ces journalistes et de conditions de leur exercice, dans la mesure où en étant réfugiés, eh ben, ils ont quand même besoin d'un studio, d'outils de travail, d'un salaire, d'un titre de séjour. Et en l'occurrence, en France, on a eu dans un premier temps une politique d'accueil de journalistes en exil. Mais le fait est que beaucoup de journalistes qui se sont retrouvés en France sont partis à l'étranger. Enfin, sont partis ailleurs, dans
Pourquoi
la mesure où ils n'avaient pas les conditions qui leur permettaient de travailler. On n'a pas mis en place, je dirais, un dispositif qui aurait permis d'accueillir suffisamment de ces journalistes pour qu'ils puissent travailler tranquillement et sereinement.
Est-ce qu'il y a un lieu, une destination privilégiée pour ces journalistes-là ?
Alors, ils sont beaucoup en Allemagne. Ils étaient avant dans les États baltes, mais ça commence à être très compliqué dans les États baltes parce qu'ils sont soupçonnés aussi d'être des agents de la Russie indirectement, parce que forcément, ils parlent aussi à un public russe, et donc ils ne sont pas dans une logique de dénonciation, ils sont dans une logique de, voilà, un discours un peu qui puisse être entendable quand on est à l'intérieur de la Russie. Aujourd'hui, ces médias fonctionnent essentiellement sur de l'abonnement ou des donations. Et en permanence, ils demandent des financements, d'envoyer 5 euros, d'envoyer 10 euros à leurs auditeurs ou à leurs lecteurs. Et certains sont confrontés au risque de fermeture, ce qui est paradoxal. À un moment, on aurait plus que jamais besoin, en fait, que ces médias soient là pour nous aider aussi à mieux informer, alors à la fois les Russes, mais aussi nous-mêmes.
On peut noter tout de même peut-être les différents collectifs internationaux qui soutiennent aussi le travail de ces journalistes, qu'ils soient notamment en Russie ou même des actions comme Forbidden Stories, alors qui ont une autre mission de continuer le travail des journalistes qui y laissent leur vie, mais ça fait partie aussi de la solidarité internationale pour continuer à informer dans des zones qui sont difficiles. La question qu'on l'on posait en préambule de cette émission était celle de comment on arrive à raconter un conflit qui dure. On a dit 4 ans en anticipant un peu justement le début de cette invasion en Ukraine. Est-ce que vous le sentez, Clara Marchaud, cet affaiblissement de l'intérêt du public et peut-être que vous avez moins de commandes, moins de dossiers, comment vous le vivez ?
Alors effectivement, le téléphone sonne un peu moins, disons qu'après le 24 février. Après, bon, moi, c'est vrai que en étant sur place, en parlant la langue, en travaillant aussi comme correspondante, j'ai quand même 3 rédactions qui continuent à avoir toujours un énorme intérêt pour l'Ukraine. Je pense du coup au Figaro, à Mediapart et à l'Express. Et je dirais aussi que c'est un peu plus difficile. Je le vois par exemple dans les présentations que je fais de mon livre, dans les contacts aussi d'invitation pour des interventions, qu'il y a un peu moins d'intérêt, que aussi il y a un peu c'est un peu difficile aussi de parler des crimes de guerre parce que bien sûr notamment quand j'essaie de proposer des sujets sur l'occupation, parce que bien sûr on parle de crimes de guerre, on parle de torture, on parle d'histoires horribles, hein, et c'est vrai que mon quotidien est fait d'écouter des témoignages de gens qui ont vécu des choses horribles. Au-delà bien sûr des bombardements et de ce qui se passe sur la ligne de front, et il y a disons qu'il y a encore un autre niveau de l'horreur dans notre travail, et on le voit aussi que les gens s'intéressent moins, enfin le lisent moins en tout cas, mais c'est aussi naturel, je pense. C'est aussi naturel de pas vouloir savoir. Mais je pense que c'est aussi dangereux, sachant qu'aujourd'hui, je veux dire, pour la Russie, nous sommes en guerre, enfin, nous, les Européens, nous, la France, sommes en guerre contre eux, en fait. Et on le voit avec toutes ces incursions. Je pense que ce sera vraiment très important de continuer à regarder ce qui se passe en Ukraine, à apprendre ce qui s'est passé en Ukraine, à apprendre de l'Ukraine pour aussi, pour notre avenir, en fait.
Grégory Philips, LCI continue évidemment à regarder ce qui se passe en Ukraine. Néanmoins, la couverture, c'est quand même... on va dire largement diminué, non, depuis 2 ans.
Oui, alors honnêtement, enfin comme je vous disais en début d'émission, on continue à accentuer, à avoir un effort très important sur l'Ukraine, mais on a un certain Donald Trump à la Maison Blanche qui nous occupe un petit peu depuis bientôt 2 ans et les massacres commis par le Hamas à Gaza. On a une situation au Proche-Orient qu'il faut traiter aussi. Vous avez une situation politique française évidemment qu'il faut raconter. Donc ça peut donner l'impression que l'Ukraine s'est un peu noyée au milieu de ces autres informations importantes. Mais honnêtement, je pense que on poursuit l'effort et on essaie d'inventer aussi un peu des nouvelles formes. Alors évidemment, Anne fait du documentaire, donc c'est des projets extrêmement ambitieux, mais nous par exemple, on essaie aussi de produire des formats longs pour sortir un peu du news et au bout de 4 ans, se dire bon, ok, par exemple, cette semaine, l'Ukraine a été un peu moins présente à l'antenne, mais vendredi soir, vous aurez un reportage de 40 minutes de Solène Rioux qui a passé 21 jours sur le front. Donc c'est une autre forme de récit qu'on essaie d'inventer pour aussi maintenir quand même l'acuité sur ce conflit.
Voilà, et garder justement le privilège du temps long, Anne Poiret, évidemment, puisque le temps long, c'est votre matière première pour arriver à réaliser ces projets aussi ambitieux.
Oui, bah c'est vraiment... Bon, c'est, moi, j'ai, généralement, en travaillant sur l'après-guerre, je mets déjà beaucoup de temps à vendre les films. Donc, déjà, ça commence avant. Là, France Télévisions, je pense qu'ils ont une implication et une volonté de raconter ce conflit. Donc, ils sont venus quand même assez rapidement. On est 2 sociétés de production, Squawk et Afterworld, sur ce projet. Ils nous ont suivis quand même assez rapidement, avec l'idée aussi que, quelle que soit l'évolution du conflit, cette question des disparus, parce qu'au moment où... au printemps, il était question de, voilà, est-ce que le conflit va s'arrêter ou pas. Et donc, quand on est sur un temps long comme ça, c'est-à-dire que moi, je sais que j'ai encore des mois de montage derrière. Voilà. Et ce sujet-là, quoi qu'il arrive, il va rester. Ces femmes vont chercher, c'est le drame des disparus, hein, c'est que les femmes, parce qu'il s'agit qu'essentiellement de femmes qui cherchent, des épouses, des mères, des filles, des sœurs, elles vont chercher jusqu'à la fin de leur jour, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, ce sujet reste, ça peut s'inscrire dans une programmation d'une chaîne comme France Télé, une chaîne vraiment impliqué aussi dans ce récit-là.
Voilà, ça c'est les petites coulisses effectivement de la vente d'un sujet pour des chaînes de télévision qui se disent au moment où elles signent, est-ce que dans 2 ans ce sera encore d'actualité? Malheureusement, le sujet des disparus ne disparaît pas.
France Culture, la fabrique de l'information.
Et c'est l'heure du rendez-vous avec la rédaction de Courrier International. Aujourd'hui, c'est Julien Abiramia. Julien, vous nous parlez d'un article consacré au test de virginité en Iran.
Oui, tout à fait. Et cet article commence dans un cabinet de gynécologie de Téhéran. Mona tremble de tout son corps, les mains glacées par le stress. Dans la salle d'attente, il y a sa mère et son futur mari. Mona ressent une profonde honte, un malaise mêlé de colère. Cette jeune femme se trouve dans ce cabinet pour faire confirmer qu'elle est vierge avant son mariage et produire un certificat médical qui en atteste. À ce moment-là, dit-elle, j'ai détesté être une femme. Ce témoignage, on le retrouve dans un article paru en août dans le quotidien iranien Sharq, repéré et traduit par Courrier International qu'il a publié dimanche dernier sur son site. Intitulé « Les certificats de la honte », cet article donne la parole à des Iraniennes qui ont subi ces tests de virginité.
Un sujet, Julien, assez rare dans la presse iranienne.
Effectivement, oui, on peut même dire qu'il est exceptionnel. D'abord parce qu'il fait témoigner des femmes, souvent invisibilisées dans les journaux iraniens et dans la société iranienne en général. Ensuite parce qu'il dénonce justement ces tests de virginité. Une pratique rétrograde que l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, juge médicalement inutile, souvent douloureuse, humiliante et traumatisante, mais qui a toujours cours dans la très conservatrice société iranienne. La question de la virginité fonctionne comme un outil de contrôle qui traverse toutes les classes sociales, affirme une docteure en anthropologie citée dans cet article.
Alors nous sommes dans la fabrique de l'information, qu'est-ce qu'on peut dire de ce média qui a publié cet article?
Alors Sharq, qui signifie Orient en persan, est un quotidien indépendant. En ce sens qu'il n'est pas officiel, c'est l'un des principaux journaux réformateurs du pays. Pour comprendre, depuis l'avènement de la République islamique en 1979, deux courants politiques coexistent en Iran. Vous avez celui des conservateurs et celui des réformateurs, favorables à une gouvernance, on va dire, moins rigoriste. Sharq fait partie d'un paysage médiatique extrêmement contrôlé par le régime des Mollahs. Un régime qui soumet les médias à la censure et les journalistes à une répression quotidienne. À noter que dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, l'Iran est 176e sur 180 pays. Et le journal Sharq en fait régulièrement les frais. Depuis sa création en 2003, il a été fermé à plusieurs reprises par les autorités. Et dernièrement, l'une de ses journalistes, Niloufar Hamedi, condamnée pour, je cite, « coopération avec les États-Unis », a passé plus d'un an en prison avant d'être graciée en début d'année. Cette journaliste, c'est elle qui avait révélé les conditions de la mort en septembre 2022 de Mahsa Amini, sous les coups de la police des mœurs, qui l'avait arrêtée pour son voile mal ajusté. On s'en souvient, c'est la mort de cette jeune femme qui a déclenché le mouvement « Femmes, vie, liberté ».
Alors justement, la publication d'un article comme celui-ci sur les tests de virginité dit forcément quelque chose d'une évolution de la société iranienne.
Tout à fait. En tout cas, c'est ce que dit cette experte signée dans l'article de Sharq. Elle dit « Compte tenu des évolutions sociales et culturelles récentes, la jeune génération aspire à reprendre le contrôle de son propre corps et de ses relations ». Dans un article publié à l'occasion du 3e anniversaire de la mort de Mahsa Amini, qu'on peut lui aussi retrouver sur le site de Courrier International, le média iranien en exil Iran Wire écrit que la mort de la jeune femme et le soulèvement, rappelons-le, réprimé dans le sang, qu'elle a déclenché, ont transformé non seulement les discours politiques, mais aussi les mœurs et les rapports sociaux en Iran. Aujourd'hui, à Téhéran, des jeunes femmes peuvent se retrouver librement dans les cafés-terrasses, sur les toits, sans foulard, mais en jean et t-shirt. Une scène, dit l'article d'Iran Wire, tout simplement impensable avant la mort de Mahsa Amini.
Merci beaucoup pour cette intervention. Julien, ça permet aussi de mieux comprendre la puissance et la force et le rôle des différents médias à travers le monde. Et on est très heureux de ce partenariat avec Courrier International. Et cette chronique est à retrouver en vidéo également sur les sites des réseaux sociaux. J'ai forcément envie de vous poser une question. Clara Marchaud, avant de rendre l'antenne, quelle est la suite pour vous, puisque vous êtes installée en Ukraine, vous étiez avant le conflit, vous y êtes toujours aujourd'hui. La vie dans les prochaines années, elle se vit toujours en Ukraine?
Ah, c'est la question. Non, je continue à... Aujourd'hui, en fait, je fais plus des allers-retours. Disons que je suis un mois en Ukraine, un mois en France. Et je travaille de plus en plus sur des enquêtes de long terme. Et notamment, je suis en train de travailler un second livre sur l'occupation. Donc, pour moi, c'est important de continuer à couvrir, justement parce que, en connaissant la langue et parce que, en connaissant le pays, c'est un peu un devoir de rester, disons.
Un devoir de rester, Anne-Colin Lebedev, j'imagine que c'est aussi un devoir et votre rôle de continuer à suivre l'évolution de ce conflit.
Évidemment, et moi aussi je me déplace en Ukraine pour conduire des enquêtes de terrain parce que je pense qu'effectivement il y a plein de sujets qui restent à traiter et que c'est quand on est sur place en fait qu'on les voit le mieux. Et à mon retour, et bah souvent effectivement, comme disait Grégory Philips, c'est pas forcément des émissions qui vont me solliciter, mais je vais avoir la possibilité de le partager dans des podcasts, dans des formats longs, dans différents formats hybrides ou de publications qui ont fleuri et qui se font aussi la qualité de la couverture de cette guerre aujourd'hui.
Grégory Philips, il paraît que vous n'allez plus jamais mentionner l'Ukraine sur LCI à partir de maintenant.
Démenti, absolument. Non, on a une équipe en Ukraine, là, Claire Cambier et Thibaut Bruck, je crois que c'est leur 8e mission dans le pays depuis le déclenchement de la guerre. Charline Hurel y est allée 14 ou 15 fois. Donc, le respect de nos reporters, c'est un vrai investissement aussi en temps pour eux et en énergie. Et ils sont très concentrés sur ce conflit. Donc, non, on va continuer à les envoyer sur place et on va continuer à le raconter à l'antenne de LCI.
Anne Poiret, Les fantômes de l'Ukraine, on a eu la chance d'en découvrir deux extraits dans la fabrique de l'information pour le voir, direction donc Bayeux où il y aura une avant-première, puis vous l'avez dit, au mois de novembre, le prix de Bayeux, je le recommande bien sûr, il y aura d'autres choses à voir et à entendre, notamment la projection à 2000 mètres d'Andivka, ou alors la projection de Détrain dans la guerre d'Emmanuel Carrère et Lucas Manger d'ailleurs, qui était venu nous voir ici dans la matinale de France Culture. Merci à vous quatre d'avoir été présents et à vous cinq pour cette émission de la Fabrique de l'Info. Je remercie à la réalisation Camille Maty qui a accompagné la naissance de cette émission et c'était déjà sa dernière, mais je suis certain qu'elle reviendra vite. Elle sera suppléée par Sorge Leroy qui était également aux doublures aujourd'hui, à la technique d'Alia, à la vidéo puisque cette émission est filmée et diffusée en direct sur YouTube, Félix Delacour, et à la préparation comme chaque semaine, Joséphine Reinhardt.